tous les matins pour bien commencer la journée.
Tu sais, je suis vierge et je suis chaud.
On écoute Wake Up sur Rocky.com.
The Punisher.
J'écoute Rocky.com.
Come on baby, make it hot. Ride the cock till you hit the spot. Come on baby, make it hot.
Claude Reichmann, on va se connecter avec lui dans même pas les secondes qui suivent. Monsieur Reichmann, s'il nous entend, bonjour, j'espère que... Oui, parfait, vous allez bien aujourd'hui, j'espère. J'espère en ce vendredi 23 novembre.
Très bien, vous aussi.
Oui, ben là, je suis en train de perdre la voix, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je suis ému, monsieur
Reichmann. Ah, ça doit être les gens qui me parlent ont le même syndrome.
Ah oui, ils perdent la...
ils perdent la voix.
Ah oh, bon ça, ok. Vous
non,
avez
non,
le
rassurez-vous,
don.
Rassurez-vous, ça n'est pas de mon fait.
Vous avez un don, M. Reichmann.
Ah oui, même au-delà de l'Atlantique, voyez-vous.
Ah, c'est ouais, vous êtes trop fort. Monsieur Reichmann, juste avant de partir, le week-end est près de nous. On est sur le point de chercher de faire du verbiage inutile, Monsieur Reichmann. On s'est parlé la semaine passée d'un petit truc intéressant et je pense qu'il y a un certain Philippe Arnaud Brugier qui m'a fait part de deux petits messages jusqu'à maintenant que j'apprécie, que je salue, que vous connaissez, je crois.
Oui, je le connais très bien. C'est un garçon qui est très attentif à tout ce que nous faisons et qui fait un travail formidable sur Internet, puisqu'il regroupe l'ensemble des émissions que nous pouvons faire, y compris celles que nous faisons avec Rockick, et les actions que nous menons pour la lutte contre le monopole de la sécurité sociale. Enfin bref, c'est un garçon qui apporte beaucoup à la cause, si je puis dire, parce que il permet à tous les lecteurs d'Internet dans le monde entier, et notamment de ceux de Wikibéral, vous connaissez cette encyclopédie libérale,
oui.
Voilà, d'avoir tous les renseignements possibles et imaginables sur les actions que nous menons, et donc je me réjouis que les actions que nous faisons, c'est-à-dire les émissions que nous faisons avec Rockick, soient également répertoriées de manière extrêmement fidèle.
Ah oui, exactement, je trouve ça fantastique, et je peux vous dire une chose, c'est que nous apprécions aussi. D'ailleurs, est-ce que vous aviez vu que la dernière intervention que nous avons faite ensemble, elle était sur le Liberty Vox, alors elle a été placée, elles sont placées en temps normal le dimanche sur le Liberty Vox, plus exactement,
oui, et ensuite, nous reprenons le lien et nous le mettons sur un certain nombre de sites, y compris sur mon site, si bien que j'espère que ça augmente assez fortement l'audience de Rockick et que
oui.
Par conséquent, tout ce que nous pouvons dire et ce que vous pouvez dire par ailleurs est largement entendu.
Ben, je vais vous dire que oui, ça augmente de plus en plus le nombre de personnes qui désirent écouter ce que vous avez à dire et aussi ce que j'ai à dire. Du côté européen, par contre, les Québécois, je suis triste de dire ça aujourd'hui, M. Reichmann, les Québécois sont, pas tous, d'accord, je voudrais pas non plus me faire tirer je voudrais pas recevoir des roches là par la tête, me faire tirer des roches, mais beaucoup de Québécois me donnent des commentaires tels que les suivants, on comprend pas ce qu'ils disent, ils ont un accent pointu, ça nous énerve. Je vais vous avouer franchement, ce genre d'individus là, disons que je ne prête pas beaucoup attention à leurs propos, parce que si je commence à m'arrêter à tous ces commentaires idiots et ridicules, disons que je n'aurais pas terminé, parce qu'on a eu quand même dernièrement, peut-être que ça vous dit quelque chose aussi, Masri Feki, jeune spécialiste du Moyen-Orient, qui...
Non, je ne connais pas.
Je vous invite pour dimanche à écouter l'interview que j'ai eue avec lui, qui nous a expliqué un peu, et il sera avec nous dorénavant à partir de les mardis 14h sur nos ondes. Vous allez voir, il est fort intéressant, je pense que vous apprécieriez l'individu. Oui, dans le fond, allez, tombons dans le vif du sujet. Savez-vous quoi, M. Reichmann? Je pense que je devrais probablement m'acheter un ticket de loto, un billet de loterie, parce que, justement, Philippe Arnaud Brugier m'a envoyé un court texte, enfin une nouvelle, qui a paru, je ne sais pas c'est quel quotidien chez vous, mais qu'il y aurait un tronçon d'escalier de la Tour Eiffel qui a été vendu pour...
C'est extraordinaire parce que nous avions évoqué le sujet la dernière fois.
Oui,
la dernière, je ne me souviens plus.
Oui.
Et on avait dit que compte tenu de la déshérence des comptes publics français, on allait bientôt finir par devoir vendre les monuments officiels. Et j'avais rappelé qu'à une époque lointaine, maintenant, sous la 4e République, alors que l'argent faisait beaucoup défaut aussi, les humoristes avaient imaginé de faire partir l'Arc de Triomphe en tournée avec le Radio Circus. ce qui rendait les cérémonies d'hommage à l'Arc de Triomphe, et notamment aux soldats inconnus, un peu difficile, parce que quand l'Arc de Triomphe oui. n'était pas là, on était obligé de s'en passer.
Oh.
Mais il est exact que l'escalier de la Tour Eiffel, qui n'est pas d'ailleurs un escalier qu'on a enlevé récemment, je crois que c'est un escalier, ça devait être l'escalier original du temps de Eiffel, a effectivement été mis en vente récemment, et Philippe Pardo-Brugier a vu une certaine coïncidence, ou en tout cas une curieuse coïncidence, entre la conversation que nous avions eue
oui.
et l'événement qu'il a
oui.
suivi. Alors, j'en déduis une chose très simple.
J'ai un don de clairvoyance, voilà. Merci, Monsieur Reichmann, merci.
C'est que vous avez un don de... C'est vous qui avez posé la question. Et d'autre part, j'invite tous les responsables gouvernementaux du monde entier à vous écouter. Ils vont savoir ce qui va leur arriver.
C'est clair, monsieur Reichmann. Moi, quand il, voilà. lorsque j'ai reçu la nouvelle, j'étais non, c'est pas vrai. Je suis resté surpris. Et en plus, Philippe Arnaud, oui, tout à fait. Il dit mais avez-vous un don de clairvoyance?
Dans ce cas-là, il faut toujours dire oui.
Oui, je vais dire oui, oui, monsieur Reichmann. Oui. Et c'est vendu. Bon, le prix exactement, c'est 180 000 euros aux enchères.
Je crois, effectivement. Mais enfin, ça n'est que de la ferraille. Il y a un côté historique, bien sûr. Ce qui fait sa valeur, c'est moins le poids en ferraille, encore que les matières premières aient augmenté beaucoup ces temps-ci, mais c'est surtout sa valeur historique. Mais vous savez qu'il y a des acheteurs pour tout. Vous pouvez vendre n'importe quelle vieillerie, quelle qu'elle soit, aussi bien on vous en donnera une misère, et aussi bien quelqu'un en donnera une fortune. C'est assez curieux.
Oui.
Vous savez, c'est le propre également des produits de presse. Ça peut paraître curieux comme raisonnement, mais dans un journal ou dans une radio, il est rare que quelqu'un trouve ou s'intéresse à 100% de ce qui est écrit ou dit. Mais en réalité, vous pouvez le vérifier sur Rockick, et moi je peux le vérifier dans mes publications, les gens s'intéressent à un, deux ou trois aspects de ce que nous écrivons ou de ce que nous disons, et d'une manière générale, je dirais que ça leur suffit. C'est ce qui fait que un certain nombre de médias arrivent à se maintenir avec, par exemple, une seule rubrique. Je n'en veux pour preuve que le Figaro, qui naturellement a d'autres rubriques que celle-ci, mais dont le carnet, c'est-à-dire le carnet du jour, est un des éléments essentiels dans une certaine société.
Ok.
C'est si vrai, d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire qui est vraie, d'ailleurs. En tout cas, c'est un mot que j'ai trouvé très amusant et que m'a raconté Jean-Christophe Mounic. Un de ses amis connaît un personnage important, mais qui a déjà un certain âge, et qui lui disait... Eh bien, écoutez, chaque matin, j'ouvre le Figaro, je regarde le carnet du jour, et si je ne suis pas mort, je vais au bureau.
Ça va très bien.
C'est bien, voilà. Comme ça, il est au courant de ce qu'il doit faire. Mais je trouve que c'est faire preuve de beaucoup d'humour.
Oui, tout à fait, oui. Est-ce que je pourrais dire de l'humour noir?
Un petit peu, oui, on peut dire ça.
Juste un tout petit peu, pas beaucoup. Et justement, là, si on commence à user de vente de vos biens, des biens de la
oui.
France, est-ce qu'on a consulté le citoyen moyen, ou on a tout simplement mis cela dans un quotidien, bang, on a vendu un tronçon de la Tour Eiffel pour 180 000 euros.
Je crois que c'était en fait une... Je crois que ça n'avait pas besoin d'une autorisation officielle, ni de l'avis des citoyens.
Alors, mais la Tour Eiffel n'est pas publique.
Écoutez, je crois qu'elle est... En fait, c'est aussi, elle doit être publique, mais c'est une concession. Mais l'escalier avait été enlevé, il y a longtemps déjà, et participait, je crois, à un patrimoine privé. Mais bon, ce qui est fort, c'est évidemment le symbole dans cette affaire. Le symbole d'une France qui
oui.
ne peut plus actuellement faire face à ses dépenses publiques. J'entendais, ou plutôt je lisais ce matin encore, les propos de M. Jean-Claude Trichet. Vous savez, c'est le président de la Banque Centrale Européenne. Et il est donc chargé des finances de la zone euro.
Ok.
Et il disait, il a été entendu par une commission chargée de proposer une réforme aux freins de la croissance en France, et qui est présidée par M. Jacques Attali, qui est l'ancien conseiller international de M. Mitterrand. Et M. Trichet disait deux choses très simples. Il disait, premièrement, il faut absolument que la France réduise ses dépenses publiques, car non seulement
oui.
c'est elle qui dépense le plus dans la zone euro, mais dans toute l'Union européenne. Et c'est donc quelque chose qui est absolument essentiel. Et il disait, et là vous allez voir que pour ceux qui savent un tout petit peu les chiffres de l'économie, c'est hallucinant, il disait, la France a actuellement sur l'Allemagne 9 points de plus de dépenses publiques, ce qui représente à peu près, ça doit faire pas loin d'une centaine de milliards d'euros
okay.
de dépenses supplémentaires oh, c'est... par rapport à l'Allemagne, qui en a déjà beaucoup elle-même. Je veux dire, l'Allemagne n'est pas, ça n'est ni l'Irlande, ni l'Espagne, ni les États-Unis. Eh bien, malgré tout, nous avons sur l'Allemagne un retard de 9 points, M. Trichet a fait le calcul, d'ailleurs n'importe qui peut le faire. 9 points de produit intérieur brut, ce qui représente effectivement une centaine, un petit peu moins, une centaine de milliards d'euros. Alors, je ne sais pas si vous représentez ce que c'est, mais ça impliquerait, si l'on voulait se ramener au niveau de l'Allemagne, si on voulait que la France soit pour ses dépenses publiques au niveau de l'Allemagne, ce qui n'est pas une ambition extraordinaire, puisque l'Allemagne, je vous le disais, n'est pas un pays qui dépense peu. Eh bien, nous serions obligés de réduire de 15 à 18% l'ensemble des dépenses de l'État et des dépenses sociales. Ça ferait à peu près une centaine de milliards. Donc, si vous voulez, ça mesure bien l'effort à faire. Or, en France, nous en sommes à continuer d'avoir des déficits, et des déficits très importants, puisque cette année, nous aurons une quarantaine de milliards d'euros de déficit du budget de l'État et une quinzaine de milliards d'euros de déficit de la sécurité sociale. Et l'année prochaine, ce sera au moins la même chose et sinon plus, parce que les perspectives de croissance sont faibles. Ce qui veut dire que la France est vraiment en faillite, comme l'a dit le Premier ministre M. Fillon, et la faillite se matérialisera le jour où la France ne parviendra plus à emprunter à des taux acceptables. Parce que le vrai problème, en fait, c'est d'arriver à dégager de l'argent pour rembourser. Et pour ça, il vous faut trouver... bien sûr des économies, mais en même temps, si on doit continuer d'emprunter, c'est-à-dire boucler nos fins de mois avec des emprunts, faut-il encore que ceux qui nous prêtent de l'argent aient une bonne chance d'être remboursés. Alors jusqu'à présent, la note de la France dans les agences de notation était très bonne, c'est le triple A, comme on dit, mais les agences de notation vont certainement commencer à s'émouvoir dans la mesure où aucune mesure, je dis bien aucune mesure d'économie, n'est prise actuellement en France, et on a même le sentiment... je ne sais plus, j'entendais un commentateur oui. qui ne passe pas pour un révolutionnaire, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est M. Duhamel qui officie depuis 40 ou 50 ans, peut-être 400 ou 500 ans, pardon, je m'excuse, sur une radio, qui racontait,
oui.
Pour la dette, ben, Sarkozy s'en fout.
Oh, mais, hein? C'est... Ah, pardon, est-ce que j'ai bien compris?
Vous avez bien compris.
Oh.
Il s'en fout. Il a peut-être dit s'en fiche, mais enfin...
Oui.
C'était bien ça. Alors, c'est quand même...
Ça se ressemble, hein. C'est à peu près, c'est similaire. C'est similaire, voilà.
C'est similaire.
Le synonyme de.
Voilà, c'est exactement cela. Eh bien, nous nous trouvons dans une situation où le signal qui est envoyé aux gens qui prêtent à l'étranger est un signal extrêmement négatif, puisque, j'en en avais parlé ensemble la semaine dernière, si vous-même vous vous trouvez dans une situation où vous dites à votre banquier « moi je vous donne l'argent mais je m'en fous », il est évident que votre banquier n'aura pas une tendance irrépressible à continuer à vous prêter de l'argent. Eh bien, la France, bon, c'est un petit peu différent dans la mesure où un État a la possibilité de lever des impôts, mais malheureusement, il y a des impôts que l'on ne peut plus lever le jour où il n'y a plus d'argent, en quelque sorte, dans les caisses. C'est ce qui avait justifié d'ailleurs le mot fameux de Ronald Reagan qui disait à l'État « Descendez de mon dos et ôtez votre main de ma poche ».
Oh.
Alors, les Français, c'est joli comme mot. Hein.
Oui, j'aime ça, M. Reichmann.
Ah, oui. Et j'aime le mot et j'aime la chose aussi.
Oui,
quand je descends de mon dos et qu'on cesse de me piquer mes sous dans ma poche. Mais malheureusement, pour l'État, il vient un moment où les gens n'ont plus de sous. Donc ils sont comme le mouton qu'on a tondu ou la brebis qu'on a tondu, il n'y a plus de laine. Et là, c'est un moment qui devient redoutable parce que l'État ne peut plus à ce moment-là augmenter la masse de ses prélèvements. Il se retrouve donc dans des conditions de plus grande difficulté pour les remboursements. Et du coup, les prêteurs commencent à s'inquiéter. Alors, il y a parmi les prêteurs, je suis peut-être un petit peu long, mais je crois que c'est un sujet important. Parmi les prêteurs, il y a aussi les Français qui représentent à peu près 40% de l'argent prêté à l'État. Et les Français le prêtent par un mécanisme qui s'appelle l'assurance vie. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'assurance vie.
Expliquez-moi juste pour être sûr et certain que je saisis bien le concept, le principe, pardon.
Alors, ça n'est pas une assurance décès comme son nom pourrait
s'y
croire. On ne s'assure pas contre le décès.
Oui.
En fait, c'est tout simplement un contrat de retraite. Alors, on prête, on achète, si vous voulez, une assurance vie. On bloque l'argent, plutôt la société qui vous vend cela bloque cet argent pendant une certaine durée, à part que vous pouvez le récupérer quand vous voulez, mais les avantages fiscaux qui sont attachés à l'assurance vie, c'est-à-dire que les intérêts sont défiscalisés, vous ne payez pas d'impôt sur les intérêts, si vous sortez avant 8 ans, par exemple, parce que c'est la durée moyenne de détention d'un contrat d'assurance vie, à ce moment-là, les intérêts d'emprunt vous sont de nouveau facturés. Alors le problème qui se pose est le suivant. Cette assurance vie, à quoi sert-elle? Eh bien, elle sert tout simplement, pour 60 ou 70% des sommes qui sont ainsi collectées, à financer le déficit de l'État. C'est-à-dire que l'État émet des obligations du Trésor, et ces obligations sont en quelque sorte la garantie de paiement. Mais est-ce que les Français se rendent compte, et c'est là que je ne cesse de le leur dire, qu'ils prêtent de l'argent à un emprunteur insolvable? C'est-à-dire que si demain, par exemple, il y a 12 millions de Français qui ont un portefeuille, une assurance vie. Et d'ailleurs, c'est assez remarquable, il y a 12 millions de retraités aussi. Alors ça ne veut pas dire que tous les détenteurs d'assurance vie sont des retraités. Ça veut dire simplement qu'une grande partie des retraités ont une assurance vie, qui leur sert en réalité de complément de retraite et surtout de garantie de retraite au cas où les régimes de répartition viendraient à ne plus leur payer ce qui est promis, et ce qui sera évidemment le cas dans peu de temps. Alors, ce qui se passe est donc la chose suivante. Sur les 12 millions de personnes qui ont une assurance vie, alors celle-ci leur a été vendue soit par une banque, soit par une société d'assurance. S'ils se présentent parce qu'ils n'ont plus confiance, alors pas les 12 millions, mais il suffit qu'il y en ait quelques milliers, et qu'ils se présentent au guichet de leur banque ou de leur société d'assurance, et qu'ils leur disent, voilà, je souhaite récupérer mon argent. Alors bien sûr, les employés ont la consigne de leur dire, mais vous ne pouvez pas faire ça, vous allez perdre vos avantages fiscaux, etc. Mais si la personne insiste et dit, je me moque des avantages fiscaux, que je veux, c'est ne pas perdre mon capital.
Un peu comme Monsieur Reichmann, un peu comme en Argentine, là, si on se rappelle.
Voilà, exactement. Oui, la comparaison est très bonne, c'est exactement cela. À ceci près qu'en Argentine, il y avait aussi des comptes courants, mais ça, c'était lorsque la faillite a été décrétée.
Ouais.
C'était ce qu'on a appelé le corralito, c'est-à-dire on a enclavé, on a enserré, rendu prisonniers les comptes bancaires. Les gens ne pouvaient retirer que l'équivalent de quelques euros par jour.
Seuls les grands puissants pouvaient sortir, se sont fait téléphoner pour sortir leur argent de là. Hein?
C'est-à-dire qu'ils l'avaient déjà depuis longtemps placé à l'étranger.
Ah.
Et il n'avait certainement pas conservé beaucoup d'argent dans une banque argentine. Et alors, pour terminer avec l'assurance vie, si quelques milliers de personnes bien déterminées, parce qu'elles ont envie de sauver leurs sous, se présentent au guichet des banques ou des compagnies d'assurance et récupèrent leur argent, ça risque de déclencher à tout moment une panique. Et vous savez que les paniques financières, ça naît comme ça. Alors regardez ce qui s'est passé avec la banque, la Northern Bank, Northern Rock en Grande-Bretagne, où tous les épargnants britanniques se sont précipités au guichet de la banque. Bon, là, l'État a réussi, l'État l'a sauvé, si je peux dire, parce qu'il a garanti les dettes, mais ça n'est possible que lorsqu'il s'agit d'un incident isolé. Mais lorsqu'il s'agit d'un incident qu'on appelle systémique, c'est-à-dire lorsque l'ensemble du système est mis en cause, là, les banques ne peuvent, l'État ne peut plus faire grand-chose. Et alors, nous nous trouvons dans une situation qui risque d'être dramatique, parce que les Français en réalité doivent savoir que cet argent qu'ils ont prêté à l'État, sur les 1200 milliards de dettes de l'État, il y en a bien 700 à 800 qui sont détenus par des retraités français. Et par conséquent, ces gens-là, si un jour, et ce jour pourrait être proche, il leur prend l'envie de retirer leur bille tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance dans la capacité de l'État de rembourser, là nous risquons d'avoir une crise très sérieuse. Et ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que si un jour cette occurrence arrive, ce qui se passera, c'est la chose suivante. L'État dira, on ne rembourse plus les assurances vie, mais naturellement, nous garantissons qu'elles seront payées et ils ajouteront un jour. Mais ce jour, à mon avis, risque d'être aussi proche que celui où les emprunts russes seront honorés.
Aujourd'hui, on parle d'argent depuis qu'on a commencé ensemble, M. Reichmann.
Oui, c'est probablement parce que nous en manquons.
Oui, aussi, exactement. J'aimerais bien arrêter de me faire, comme je le dis, plusieurs personnes considèrent que c'est assez cru comme façon de l'expliquer, mais oui. J'aimerais qu'on arrête de me violer. Qu'on arrête de me violer avec des impôts stupides et complètement débiles parce qu'on donne trop d'argent aux associations pour les pauvres, les associations pour les unions d'artistes, on se comprend. Alors, justement, j'ai constaté quelque chose de fort intéressant. Est-ce que Jacques Chirac va passer, va faire quelques jours en prison avec cette fameuse histoire de détournement de fonds? Moi qui croyais qu'il était blanc comme neige, M. Reichmann, dites-moi pas qu'il a volé de l'argent.
Cher monsieur Trépanier, vous voyez qu'on ne peut pas sortir des questions d'argent.
Non.
Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit.
Oui.
En l'occurrence, non, Jacques Chirac n'ira certainement pas en prison, encore que dans le climat français actuel,
dès ce
c'est possible. Oui. Ce qui se passe, en réalité, vous avez sans doute suivi, c'est que pendant toute la durée de son mandat, Jacques Chirac a été mis à l'abri des juges par des dispositions qui n'étaient pas constitutionnels au départ, mais qu'ils sont devenus par la bienveillance du président du Conseil constitutionnel, M. Dumas, qui a sans doute fait un échange de bons procédés avec le président de la République. Mais enfin, bon, maintenant, nous sommes au-delà de cette période, puisque Jacques Chirac est redevenu, comme on dit, un citoyen comme les autres. C'est-à-dire qu'il a été mis en examen par une juge d'instruction du pôle financier du tribunal de Paris, pour une affaire d'emploi fictif. C'est-à-dire que cette affaire ne lui a pas profité directement, sauf pour l'influence qu'il peut exercer. Il a engagé à son cabinet de maire de Paris, dans les années qui ont suivi 1977 et qui se sont poursuivies jusqu'en 1995, date à laquelle il a été élu président de la République et a donc quitté la mairie de Paris. Il a engagé...
Des valises remplies d'argent, hein, M. Reichmann.
Non, ça n'est pas ça. L'instant, cette affaire, ça n'est pas une affaire de valises.
Ok, c'est autre chose, d'accord.
Non, les affaires de valises remplies d'argent, ça c'était notamment l'affaire des lycées d'Île-de-France. Tout ça est un peu compliqué, mais enfin, cette affaire a été en grande partie jugée. Elle a été jugée, à part que les principaux responsables des partis politiques, dont Jacques Chirac, qui était aussi président du RPR, n'ont pas été inquiétés dans cette affaire.
Ah non, ils ne sont jamais inquiétés, M. Reichmann.
Si, la preuve, c'est que maintenant, ils le sont, mais pas forcément pour des affaires d'une extrême gravité. La preuve, c'est il est évident que le principe... c'est qu'on ne doit pas employer dans une collectivité territoriale ou dans un ministère ou n'importe où, avec de l'argent public, des gens qui font autre chose que servir le dit ministère ou la dite collectivité locale. Mais en fait, il a engagé des personnes dont il dit, car il a écrit un article dans Le Monde hier, il dit que ces personnes étaient nécessaires à son information, parce qu'avant, la ville de Paris était dirigée par un préfet, et qu'il a été le premier maire élu de la capitale depuis l'Empire, c'est-à-dire depuis deux siècles, et que par conséquent, il avait besoin de rénover la manière dont les décisions étaient prises, etc., etc. Bon, en réalité, tout le monde sait bien que ces personnes, il n'y a qu'à regarder leur nom, étaient toutes plus ou moins des amis politiques, dont Chirac reconnaît d'ailleurs qu'elles étaient parfois dans la difficulté parce qu'elles n'avaient plus de boulot ou qu'elles en cherchaient un meilleur, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il qu'il ne nie pas avoir effectivement engagé ces personnes. Il dit qu'il n'était pas forcément au courant de tout, ce qui est possible d'ailleurs, mais il a quand même signé de sa main au moins un de ces contrats, ce qui prouve qu'il était quand même au courant. Et là, effectivement, nous trouvons devant ce que l'on appelle, en termes judiciaires, un détournement de fonds, puisque l'argent qui a été donné à ces personnes, pendant des années et des années, ils ont touché des salaires d'une importance moyenne, mais parfois ça finit par faire des sommes importantes. Ces personnes donc ont été payées avec de l'argent qui n'était pas destiné à payer les gens qui ne travaillaient pas en réalité pour la mairie de Paris. Donc cette affaire peut lui valoir, je crois, 10 ans de prison, c'est le tarif, mais il est évident que les gens ne sont pas condamnés toujours au maximum de la peine, et que d'autre part, compte tenu de l'ancienneté des faits, et du fait que malgré tout, c'est un ancien président de la République, si l'affaire va jusqu'au bout, c'est-à-dire si elle est plaidée devant un tribunal, il est vraisemblable que Chirac sera condamné, parce que les faits semblent établis, mais moi je n'en suis pas absolument certain, parce que je ne connais pas le dossier suffisamment.
Ben, on me donne comme information, M. Reichmann, ici, que Ronald Dumas, probablement que ça vous dit quelque chose, président du Conseil constitutionnel, est un corrompu. Il est mêlé, c'est ça, à l'affaire des frégates de Taïwan, et c'est bien sûr relié à l'affaire de Clearstream. Il a acheté son immunité en faisant un deal avec Chirac, et le deal était de rendre le président Chirac inattaquable pendant son mandat et pour toutes les affaires datant de son mandat. Est-ce que ça, vous avez eu vent de ça, j'imagine?
Oui, enfin, c'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas, c'est si M. Dumas est réellement un corrompu ou pas, parce que ça n'a pas été établi. Et non, parce que, bon, tout ça, on le soupçonne, parce que le deal, effectivement, semble bien avoir eu lieu. C'est-à-dire qu'il semble bien que M. Dumas ait eu quelques raisons de vouloir entretenir de bonnes relations avec M. Chirac, qui, étant président de la République, pouvait quand même avoir une certaine influence dans les affaires judiciaires. Mais ce qui est certain, c'est que l'affaire des frégates de Taïwan n'a toujours pas été éclaircie, et que le juge Van Ruymbeck, qui est actuellement mis en cause devant ses pairs, parce que dans l'affaire Clearstream précisément, il avait rencontré un témoin dont il n'aurait pas dû apparemment, qu'il n'aurait pas dû rencontrer dans les conditions qui ont été celles de cette rencontre. Enfin, c'est une affaire de procédure assez complexe. Mais enfin, ce qui est certain, et le juge Van Ruymbeck l'a dit avec beaucoup de force, et il a raison, l'affaire des frégates de Taïwan est à la base de tout cela, et le secret défense a toujours été, enfin, on a toujours refusé de le lever. Et personnellement, je considère que il n'y a aucune raison, dans la mesure où la justice finit par avoir à traiter des problèmes graves, il n'y a pas de raison que l'on cache à la justice les éléments déterminants de toutes ces affaires. Le seul point qui peut expliquer que l'affaire des frégates soit toujours couverte par le secret défense, c'est qu'il y a, il n'y a pas que des corrompus éventuels dans cette affaire. Il y a aussi des intermédiaires qui sont des gens indispensables, parce que c'est grâce à eux qu'on fait des marchés et qui touchent évidemment des commissions, ces commissions devant rester occultes pour les raisons qu'on suppose, et que ces intermédiaires pourraient, s'ils étaient mis en cause, d'une part, ne plus jouer leur rôle, et surtout décourager d'autres intermédiaires, car ce n'est pas toujours les mêmes, de traiter avec la France, ce qui fait que un certain nombre de marchés risqueraient, les marchés d'armement notamment, risqueraient d'échapper à la France. Et je crois que c'est la raison véritable pour laquelle on ne lève pas le secret défense. Cela étant dit, la justice française est en train systématiquement de poursuivre un certain nombre d'entreprises pour avoir versé des commissions, en particulier les dirigeants de Total, la grande société d'hydrocarbures, sont visés pour avoir versé des pots de vin ici et là. Permettez-moi de vous dire que c'est une véritable plaisanterie, parce que il n'y a pas un seul contrat dans le monde, et notamment au niveau pétrolier, qui puisse se conclure sans que l'on verse des pots de vin. Alors, moi, je ne suis pas évidemment favorable au principe des pots de vin, c'est de la corruption. Mais la corruption est hélas le lot dans toutes les affaires mondiales, et surtout dans très très gros contrats d'armement ou les contrats d'hydrocarbures. Et par conséquent, quand la justice se mêle, et après tout c'est son devoir, mais vous me direz qu'il y a des devoirs qu'on peut oublier dans certains cas, quand la justice entreprend de faire pour une société importante de faire des démarches qui représentent à celles qu'on pourrait en quelque sorte appliquer à une société de pêcheurs à la ligne qui aurait acheté des asticots au rabais, enfin un truc dans ce genre-là, si vous voulez, en corrompant, oui. En corrompant le marchand d'asticots, je suis désolé, mais c'est de l'angélisme.
Mais
la France est hors du monde, et dans ce cas-là, bon, parfait, continuons comme ça, mais on n'aura plus pendant longtemps des contrats quels qu'ils soient, et donc tout ça, ça se traduit en termes d'emploi, en termes également de recettes d'exportation. Enfin, vous voyez que tout est lié, et moi je pense que toutes ces affaires devraient être traitées avec plus d'intelligence.
Monsieur Reichmann, c'est drôle, mais j'ai toujours l'impression que à toutes les fois qu'on peut parler de ce genre de sujet-là, que certains politiciens ont fait des détournements, je pourrais aussi vous rappeler, et vous en souvenez, des 300 millions de francs que Jacques Chirac avait cachés quelque part, je pense que c'était au Japon ou quelque
alors
chose.
Alors ça, c'est l'affaire du compte japonais, mais là encore, il n'y a pas eu de preuve. J'entendais hier dans un débat...
Mais c'est ça le problème, Monsieur Reichmann. Il n'y a jamais de preuve, mais il y a toujours une nouvelle qui sort et qui laisse supposer que, dans le fond... S'il y a une nouvelle qui sort, c'est parce que nécessairement, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui empêche le dossier d'avancer. Il y a quelqu'un qui est assez puissant. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a quelqu'un qui est assez puissant pour empêcher de faire avancer ce dossier-là? C'est drôle, on voit jamais aboutir des nouvelles comme les 300 millions de francs. Jamais, je n'ai jamais rien entendu parler de cela. Et Dieu sait que je regarde, je lis beaucoup les journaux de votre côté, que ce soit le 20 minutes, le monde.fr, le Figaro, nommez-en. Je pourrais vous dire que j'en passe beaucoup, le Parisien. C'est drôle, jamais que ça aboutit à quelque chose.
Alors, si, pour répondre à votre question, il est exact qu'il y a eu des enquêtes de la DST qui, semble-t-il, oui. Là encore, il faut être prudent, et établi qu'il y aurait bien un compte japonais pour Jacques Chirac, avec en effet à son actif des sommes assez voisines de celles que vous avez évoquées. Mais il est évident aussi que ces enquêtes n'ont pas été poursuivies très longtemps, dans la mesure où Jacques Chirac, étant président de la République, avait les moyens d'influer, bien sûr, sur l'administration, sur les enquêteurs qui étaient éventuellement intéressés par cette affaire. Mais les choses pourraient changer, parce que vous savez ce que c'est, quand le pouvoir vous protège, mais quand vous ne l'avez plus, vous risquez, à ce moment-là, d'une part de perdre votre protection et d'autre part qu'un certain nombre d'affaires finissent par sortir. Mais ce qu'il faut, c'est évidemment être toujours très prudent avec les rumeurs, parce que je ne dis pas qu'une rumeur est forcément infondée, il peut y avoir des rumeurs qui se vérifient, mais il faut quand même rester prudent dans la mesure où il y a des rumeurs qui sont des objets qui sont des objets volants non identifiés, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous lancent des rumeurs et qui, bien entendu, ne sont pas toujours désintéressés des résultats de cette rumeur. Donc il faut faire attention, mais il n'empêche que pour l'instant, la seule affaire dans laquelle Jacques Chirac est mis en examen, c'est-à-dire celle des emplois fictifs de la mairie de Paris, est une affaire somme toute de peu d'importance, parce que d'abord, ça représente, je crois, une vingtaine de personnes sur plusieurs dizaines de milliers de salariés de la mairie de Paris. Mais enfin, vous me direz que le principe est qu'il ne doit pas y avoir une seule malhonnêteté. Le fait qu'il y ait 40 000 personnes ou qu'il y en ait 500 000 ou 10 ne change rien à l'affaire. C'est un principe. Mais il n'empêche que ce sont des emplois de complaisance comme il y en a partout. Alors c'est là que le problème, si vous voulez, devient totalement... irréaliste et surréaliste même, c'est que l'ensemble de la classe politique française a vécu et même parfois continue de vivre comme ça. Il y a des tas de gens, regardez dans les caisses de sécurité sociale, vous avez des tas de permanents syndicaux qui sont payés par les caisses de sécurité sociale ou par les caisses de retraite et qui sont en réalité au service de leur confédération syndicale. Donc ils ne travaillent pas dans l'organisme pour lequel ils sont censés travailler. Alors moi je veux bien qu'on fasse le ménage partout, personnellement j'y suis très favorable, mais alors qu'on le fasse vraiment partout. Or actuellement nous avons tous les éléments nécessaires pour que tout le monde soit poursuivi, donc qu'on le fasse, que la justice ne se borne pas à poursuivre un ancien président de la République.
C'est ça.
Qui, je vous le dis en passant, je ne suis pas favorable bien sûr à ce qu'a pu éventuellement faire Jacques Chirac, s'il l'a fait il a eu tort. Mais très franchement, l'image de la France ne va pas sortir grandie d'une affaire comme celle-ci, parce que la presse étrangère, vous le savez mieux que personne, fait déjà ses choux gras de cette affaire. D'autre part, les gens se disent, mais enfin tout de même, ce type était il y a 6 mois encore président de la République, vous vous rendez compte, il est devant les tribunaux, on va finir par ressembler à l'Argentine de Carlos Menem. Et donc tout ça,
ça va,
est assez négatif. Alors,
je crois que ça va bien.
Il n'avait qu'à ne pas le faire, bien sûr, c'est vrai aussi. Mais enfin, disons que la vertu dont on essaye de faire preuve en France maintenant serait beaucoup plus crédible si elle s'attaquait à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, abusent des fonds publics ou des fonds sociaux. Et là, je peux vous dire qu'ils sont un sacré paquet.
Monsieur Reichmann, je vous remercie. On se reparle la semaine prochaine sans faute.
Absolument, sans faute, à la même heure.
Même heure.
Vous savez ce qu'on dit à l'armée, même motif, même punition.
On dira ça la prochaine. Oui, même motif, même punition, je suis d'accord.
Voilà, mais pour nous, ça n'est pas, enfin pour moi en tout cas, ça n'est pas une punition. Au contraire, c'est une joie de vous parler.
Ah, je suis prêt à lancer cette réplique là n'importe quand, monsieur Reichmann. Elle ne me coûtera pas cher.
Ne vous gênez pas.
Elle ne me coûtera pas cher comme justement de voter pour.
Il n'y a pas de droit d'auteur.
Ah, il n'y a pas de droit d'auteur. Une chance, oui, effectivement, je vais pouvoir garder un peu l'argent dans mes poches. Merci, monsieur Reichmann.
À bientôt.
Excellent week-end à vous. Au revoir.
À vous.
Alors, c'était Claude Reichmann, il est 7h24, Ismaël Trépanier, oui, votre punisseur et maréchal, on revient tout de suite après ceci, on va des derrière, oui, c'est ça. Vous écoutez le show Wake Up de 6h à 10h et de midi à 16h. Restez là.
Rockick.com, allez écouter ça quelqu'un, puis venez m'en parler s'il vous plaît.
Tout le monde a le droit de sourire, vous aussi.
Wake up!
Ceci est un message de l'Association des dentistes du Québec.
Oui, avec un kick, s'il vous plaît.
S'il vous plaît.
Moi, j'étais X, toi, t'es X!
Non.
It's good, really good.
Rock. Rocking.com.